du Gabon et à sa collègue. Je dirais même qu'on est d'autant plus heureux de les avoir que, à elles deux, elles doivent assumer la charge de ce dialogue constructif. Et merci de cette présentation déjà substantielle en entrant dans le dossier. Évidemment, nous déplorons que le reste de la délégation, les juristes et experts de la capitale ne soient pas avec nous, mais je pense que vous relayerez nos préoccupations. Je crois que la méthodologie du dialogue constructif, qui est commune d'ailleurs à tous les organes de traité, est bien rodée, et nous avons eu des bonnes pratiques dans le cadre du comité des disparitions forcées. Je crois que le comité est désireux à la fois de faire preuve de souplesse et de réactivité pour s'adapter aux situations. Et cette séance publique, comme celle de demain, sera utile, je l'espère, à la fois pour les pouvoirs publics et pour la société civile au Gabon. Comme vous l'avez rappelé, le Gabon a ratifié la convention en janvier 2011, parmi les premiers, la première vague de ratification, donc nous nous en félicitons, bien sûr. 2 ans après, le rapport devait être remis. Le rapport a été remis le 10 juin 2015. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en septembre 2017. Il y a déjà un peu de temps qui s'est passé. Et je crois que c'était important d'avoir justement ce dialogue constructif bien construit, dans la mesure où, sur la base du rapport, le comité élabore des listes de questions et l'État a ensuite 6 mois pour répondre par écrit à ces listes de questions avec une traduction au bénéfice de tous les experts, puisque notre comité est un comité universel. Donc c'est important de respecter ces délais. Et la phase orale, c'est d'aller encore plus loin sur un terrain parfois technique, de droit pénal, avec ce dialogue qui est souvent très riche. Encore une fois, il y a des exemples très, très fructueux dans le passé, ce matin même avec la Lituanie. Je crois que ce qui est important aussi de souligner d'emblée sur un terrain plus juridique, c'est la continuité des engagements de l'État et de la responsabilité de l'État qui souverainement a ratifié un traité. Alors, ceci dit, évidemment, nous avions beaucoup d'attentes et d'attention à l'égard du Gabon. Sur le terrain juridique d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, si je puis dire. Je prendrai 3 exemples. La création d'une commission nationale des droits de l'homme, quelle que soit sa dénomination, c'est une vieille idée, je dirais pas un serpent de mer, mais depuis 2005, on en parle. Donc, vous nous dites que c'est quelque chose qui est à l'étude. Donc là aussi, on voudrait savoir exactement quel est le calendrier précis et quels sont les moyens pris par le Gabon pour que cette commission soit accréditée A selon les principes de Paris qui sont bien, bien connus. De même, s'agissant de l'article 31 de la Convention qui prévoit une déclaration facultative d'accepter les compétences du comité pour examiner des communications individuelles. Je ne parle même pas de l'article 32 s'agissant des communications étatiques. On nous dit qu'une étude technique est en cours. Bon, l'étude technique, elle est relativement vite faite puisque le Gabon a lui-même une expérience de ces mécanismes. Sauf erreur de ma part, il a accepté des procédures de plainte dans le cadre de la Convention sur la discrimination à l'égard des femmes depuis 2004, la Convention à l'égard des enfants, le troisième protocole en 2012, ou la Convention sur les personnes handicapées. Donc restent les deux pactes, le CAT, le Comité contre la torture, le CERD, je crois, et puis... donc, plus qu'une étude technique, parce que techniquement, il suffit d'envoyer une note verbale en disant que l'État fait la déclaration, souscrit à la déclaration de l'article 31 et de l'article 32, c'est un problème de volonté politique. J'ajoute dans le même contexte, et pour nous en féliciter, que le Gabon a ratifié l'OPCAT en 2010, qui d'ailleurs pas indiqué dans le rapport. On dit encore que c'est à la phase de la signature. Dans le rapport, à la page 4 du rapport, on dit que c'est signé en 2004, mais la ratification a été faite en 2010. Donc c'est un point acquis. Ceci dit, troisième réforme qui est dans les tuyaux, c'est d'avoir un mécanisme national de prévention de la torture pour être le correspondant du comité pour la prévention de la torture des Nations Unies, ou du sous-comité contre la torture, et vous nous dites que le texte est en examen devant le Conseil d'État. Donc sur ces trois points très, très précis qui cadrent un petit peu les engagements juridiques du Gabon, ça serait intéressant de savoir quand est-ce qu'il y aura une institution nationale conforme aux principes de Paris. Quelle est la position, à la suite de cette étude technique, du Gabon à l'égard de l'article 31, et comment l'OPCAT va être mis en œuvre avec un mécanisme national de prévention de la torture. Je disais que une actualisation était nécessaire sur le terrain juridique, mais malheureusement, une actualisation est nécessaire également sur le terrain politique, puisque, encore une fois, le rapport a été remis le 10 juin 2015 et que depuis, il y a eu tous les événements consécutifs aux élections, et notamment les troubles du 31 août 2016, il y a maintenant près d'un an. Dans le rapport écrit, les réponses aux questions, vous parlez surtout des arrestations, des poursuites. Oralement, vous l'avez fait de nouveau. En même temps, d'après des allégations crédibles d'ONG et d'organisations internationales, je pense au Parlement européen, on a évoqué des tués, des blessés, des disparus. Je constate que, à plusieurs reprises dans le rapport, dans les réponses aux questions et oralement, vous nous dites qu'il n'y a aucune allégation qui a été portée à la connaissance de la justice. En même temps, comment concilier cette affirmation avec le fait que les ONG parlent de 300 décès lors de l'attaque du quartier général de M. Ping le 31 août 2016, et que plus récemment, plusieurs charniers, au moins 4, ont été trouvés à Libreville, notamment à Mindoubé, avec 130 corps, dans la cité de la démocratie.